Très chers jeunes,
vor der heiligen Hostie,
devant la Sainte
Hostie,
dans laquelle Jésus s'est fait pour nous pain qui soutient et nourrit notre vie de l'intérieur, nous avons commencé hier soir le cheminement intérieur de l'adoration. Dans l'Eucharistie, l'adoration doit devenir union. Dans la célébration eucharistique, nous nous trouvons en cette heure de Jésus dont parle l'évangile de Jean. Grâce à l'Eucharistie, son heure devient notre heure, sa présence au milieu de nous. Avec ses disciples, il a célébré la scène pascale d'Israël, le mémorial de l'action libératrice de Dieu qui avait conduit Israël de l'esclavage à la liberté. Jésus suit les rites d'Israël. Il récite sur le pain la prière de louange et de bénédiction. Mais ensuite, se produit quelque chose de nouveau. Il ne remercie pas Dieu seulement pour ses grandes œuvres du passé. Il le remercie pour sa propre exaltation qui se réalisera par la croix et la résurrection. Et il s'adresse aussi aux disciples avec des mots qui contiennent la totalité de la loi et des prophètes. Ceci est mon corps donné pour vous en sacrifice. Ce calice est la nouvelle alliance en mon sang. Il distribue alors le pain et le calice et en même temps, il leur confie la mission de redire et de refaire toujours de nouveau en sa mémoire ce qu'il est en train de dire et de faire en ce moment. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment Jésus veut-il donner son corps et son sang? Faisant du pain son corps et du vin son sang, il anticipe sa mort, il l'accepte au plus profond de lui-même et il la transforme en un acte d'amour. Ce qui de l'extérieur est une violence brutale devient de l'intérieur l'acte d'un amour qui se donne totalement. Telle est la transformation substantielle qui s'est réalisée au Cénacle et qui visait à faire naître un processus de transformation dont le terme ultime est la transformation du monde jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. Depuis toujours, tous les hommes, d'une manière ou d'une autre, attendent dans leur cœur un changement, une transformation du monde. Maintenant se réalise l'acte central de transformation qui est seul en mesure de renouveler vraiment le monde. La violence se transforme en amour et donc la mort en vie. Puisque cet acte change la mort en amour, la mort comme telle est déjà dépassée au plus profond d'elle-même. La résurrection est déjà présente en elle. La mort est, pour ainsi dire, intimement blessée, de sorte qu'elle ne peut avoir le dernier mot. Pour reprendre une image qui nous est familière, il s'agit d'une fission nucléaire portée au plus intime de l'être. La victoire de l'amour sur la haine, la victoire de l'amour sur la mort, seule l'explosion intime du bien qui vainc le mal peut alors engendrer la chaîne des transformations qui peu à peu changeront le monde. Tous les autres changements demeurent superficiels et ne sauvent pas. C'est pourquoi nous parlons de rédemption. Ce qui du plus profond était nécessaire se réalise. Et nous pouvons entrer dans ce dynamisme. Jésus peut distribuer son corps parce qu'il se donne réellement lui-même.
This first fundamental transformation of violence into love, of death into
cette
life,
première transformation fondamentale de la violence en amour, de la mort en vie, entraîne à sa suite les autres transformations.
But it must not stop there.
Le pain et le vin deviennent son corps et son sang. Cependant, la transformation ne doit pas s'en arrêter là. C'est plutôt à ce point qu'elle doit commencer pleinement. Le corps et le sang du Christ nous sont donnés afin que nous-mêmes nous soyons transformés à notre tour. Nous-mêmes, nous devons devenir corps du Christ, co-sanguin avec lui. Tous mangent l'unique pain. Mais cela signifie qu'entre nous, nous devenions une seule chose. L'adoration, avons-nous dit, devient ainsi union. Dieu n'est plus seulement en face de nous, comme le totalement autre. Il est au-dedans de nous, et nous sommes en lui. Sa dynamique nous pénètre. Et à partir de nous, elle veut se propager aux autres et s'étendre au monde entier pour que son amour devienne réellement la mesure dominante du monde. Je trouve une belle allusion à ce nouveau pas que la dernière scène nous pousse à faire dans les différents sens que le mot « adoration » a en grec et en latin. Le mot grec est proskinesis. Il signifie le geste de la soumission, la reconnaissance de Dieu comme notre vraie mesure dont nous acceptons de suivre la règle. Il signifie que liberté ne veut pas dire jouir de la vie, se croire absolument autonome, mais s'orienter selon la mesure de la vérité et du bien pour devenir de cette façon nous aussi vrais et bons. Cette attitude est nécessaire, même si dans un premier temps, notre soif de liberté résiste à une telle perspective. Il ne sera possible de la faire totalement nôtre que dans le second pas que la dernière scène nous en trouve. Le mot latin pour adoration est ad oratio, contact, bouche à bouche, baiser, accolade, et donc en définitive amour. La soumission devient union parce que celui auquel nous nous soumettons est amour. Ainsi, la soumission prend un sens parce qu'elle ne nous impose pas des choses étrangères, mais nous libère à partir du plus profond de notre être.
Revenons encore à la dernière scène. La nouveauté qui s'est produite résidait dans la nouvelle profondeur que prenait l'ancienne prière de bénédiction d'Israël, qui devient alors la parole de la transformation et nous donne à nous de participer à l'heure du Christ. Jésus ne nous a pas donné la mission de répéter la scène pascale qui, du reste, en tant qu'anniversaire, ne peut pas se répéter à volonté. Il nous a donné la mission d'entrer dans son heure. Nous y entrons grâce à la parole qui vient du pouvoir sacré de la consécration, une transformation qui se réalise par la prière de louange, qui nous met en continuité avec Israël, avec toute l'histoire du salut, et qui en même temps nous donne la nouveauté vers laquelle cette prière tendait par sa nature la plus profonde. Cette prière, appelée par l'Église prière eucharistique, constitue l'Eucharistie. Elle est parole de pouvoir qui transforme le don de la terre de façon tout à fait nouvelle, en don de soi de Dieu, et qui nous engage dans ce processus de transformation. C'est pourquoi nous appelons cet événement Eucharistie, traduction du mot hébraïque beraka, remerciement, louange, bénédiction, et ainsi transformation à partir du Seigneur, présence de son heure. L'heure de Jésus est l'heure où l'amour est le vainqueur. En d'autres termes, c'est Dieu qui a vaincu, parce qu'il est amour. L'heure de Jésus veut devenir notre heure, et elle le deviendra si nous-mêmes, par la célébration de l'Eucharistie, nous nous laissons entraîner dans ce processus de transformation que le Seigneur a en vie. L'Eucharistie doit devenir le centre de notre vie. Ce n'est ni positivisme, ni soif de pouvoir si l'Église nous dit que l'Eucharistie fait partie du dimanche. Au matin de Pâques, les femmes en premier, puis les disciples, eurent la grâce de voir le Seigneur. Depuis lors, ils surent que désormais le premier jour de la semaine, le dimanche, serait son jour à lui, le jour du Christ. Le jour du commencement de la création devenait le jour du renouvellement de la création. Création et rédemption vont ensemble. C'est pour cela que le dimanche est aussi important. Il est beau qu'aujourd'hui, dans de nombreuses cultures, le dimanche soit un jour libre, ou qu'avec le samedi, il constitue même ce qu'on appelle le week-end libre. Ce temps libre, toutefois, demeure vide si Dieu n'y est pas présent. Chers amis, quelquefois, dans un premier temps, il peut s'avérer plutôt mal commode de devoir prévoir aussi la messe dans le programme du dimanche. Mais si vous en prenez l'engagement, vous constaterez aussi que c'est précisément ce qui donne le juste centre au temps libre. Ne vous laissez pas dissuader de participer à l'Eucharistie dominicale et aidez aussi les autres à la découvrir, parce que la joie dont nous avons besoin se dégage d'elle. Nous devons assurément apprendre à comprendre toujours plus la profondeur. Nous devons apprendre à l'aimer. Engageons-nous en ce sens. Cela en vaut la peine. Découvrons la profonde richesse de la liturgie de l'Église et sa vraie grandeur. Nous ne faisons pas la fête pour nous, mais c'est au contraire le Dieu vivant lui-même qui prépare une fête pour nous. En aimant l'Eucharistie, vous redécouvriez aussi le sacrement de la réconciliation, dans lequel la bonté miséricordieuse de Dieu permet toujours un nouveau commencement à notre vie. Chi ha scoperto Cristo deve portare altri verso di lui.
Se doit de conduire les autres vers lui.
Una grande gioia non si può tenere per sé.
On ne peut pas garder pour soi une grande joie.
Bisogna trasmetterla.
Il faut la transmettre. Dans de vastes parties du monde existe aujourd'hui un étrange oubli de Dieu. Il semble que rien ne change, même s'il n'est pas là. Mais en même temps, il existe aussi un sentiment de frustration, d'insatisfaction de tout et de tous. On ne peut alors que s'exclamer, il n'est pas possible que ce soit cela la vie. Non, vraiment. Et alors, conjointement à l'oubli de Dieu, il existe comme un boom du religieux. Je ne veux pas discréditer tout ce qu'il y a dans cette tendance. Il peut y avoir aussi la joie sincère de la découverte. Mais dans ce contexte, à vrai dire, la religion devient presque un produit de consommation. On choisit ce qui plaît, et certains savent aussi en tirer profit. Mais la religion recherchée comme une sorte de bricolage, en fin de compte, ne nous aide pas. Elle est commode, mais dans les moments de crise, elle nous abandonne à nous-mêmes. Aidez les hommes, chers amis, à découvrir la véritable étoile qui nous indique la route, Jésus-Christ. Nous aussi, nous cherchons à le connaître toujours mieux pour pouvoir conduire les autres vers lui de manière convaincante. C'est pourquoi il est si important d'aimer la Sainte Écriture et par conséquent de connaître la foi de l'Église qui nous ouvre le sens de l'Écriture. C'est l'Esprit Saint qui guide l'Église dans sa foi en croissance. Et c'est lui qui l'a fait et qui l'a fait pénétrer toujours plus dans les profondeurs de la vérité.
Papa Giovanni Paolo II.
Le pape Jean-Paul II, le très cher pape Jean-Paul II, nous a donné une œuvre merveilleuse dans laquelle la foi des siècles est expliquée de façon synthétique, le catéchisme de l'Église catholique. Moi-même, récemment, j'ai pu présenter l'abrégé de ce catéchisme, qui a été élaboré à la demande du pape défunt. Ce sont deux livres fondamentaux que je voudrais vous recommander à tous.
Évidemment,
les livres à eux seuls ne suffisent pas. Former des communautés fondées sur la foi. Au cours de ces dernières décennies sont nés des mouvements et des communautés dans lesquelles la force de l'Évangile se fait sentir avec vigueur. Chercher la communion dans la foi en étant ensemble des compagnons de route qui continuent à suivre le chemin du grand pèlerinage que les mages d'Orient nous ont indiqué les premiers. La spontanéité des nouvelles communautés est importante. Mais il est aussi important de conserver la communion avec le pape et avec les évêques.
Ce sont eux qui garantissent
qu'on ne recherche pas des sentiers privés mais au contraire qu'on vit dans la grande famille de Dieu que le Seigneur a fondée avec les 12 apôtres.
Noch einmal muss ich am Schluss zur Eucharistie zurückkommen.
Encore une fois, je dois revenir à l'Eucharistie, puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, dit saint Paul. En cela, il entend dire, puisque nous recevons le même Seigneur et que lui nous accueille et nous attire en lui, nous sommes une seule chose aussi entre nous. Cela doit se manifester dans la vie. Cela doit se voir dans la capacité à pardonner. Cela doit se manifester dans la sensibilité aux besoins de l'autre. Cela doit se manifester dans la disponibilité à partager. Cela doit se manifester dans l'engagement envers le prochain, celui qui est proche comme celui qui est extérieurement loin, mais qui nous regarde toujours de près. Il existe aujourd'hui des formes de bénévolat, des modèles de services mutuels dont notre société a précisément un besoin urgent. Nous ne devons pas, par exemple, abandonner les personnes âgées à leur solitude. Nous ne devons pas passer à côté de ceux qui souffrent. Si nous pensons et si nous vivons dans la communion avec le Christ, alors nos yeux s'ouvriront. Alors nous ne nous contenterons plus de vivoter, préoccupés seulement de nous-mêmes, mais nous verrons où et comment nous sommes nécessaires. En vivant et en agissant ainsi, nous nous apercevrons bien vite qu'il est beaucoup plus beau d'être utile et d'être à la disposition des autres que de se préoccuper seulement des facilités qui nous sont offertes.
Je sais que vous, en tant que jeune,
vous aspirez aux grandes choses, que vous voulez vous engager pour un monde meilleur. Montrez-le aux hommes. Montrez-le au monde qui attend justement ce témoignage des disciples de Jésus-Christ et qui, surtout par votre amour, pourra découvrir l'étoile que, comme croyants, nous suivons. Allons de l'avant, allons de l'avant avec le Christ et vivons notre vie en vrai adorateur de Dieu.
Amen.